Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme. Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris. Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors, ah ben ça c'est énorme. Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Coulisses, le podcast de la présidentielle.
Emmanuel Macron, c'est un adolescent qui se cherche.
On a ce truc incroyable dans notre pays, on adore les mea culpa.
Madame Pécresse, elle a dit d'elle-même qu'elle était un tiers Thatcher, deux tiers Merkel, ce qui ne laisse pas grand-chose de bon.
Nous serons une pour tous et tous pour une.
Je vous le dis avec toute mon âme, no pasarán.
Coulisses. Le podcast de la présidentielle.
Bonjour, je suis Jérémy Trottin, le chef du service politique de RMC. Et en cette année présidentielle, j'ai décidé avec mon service, Hélène, Juliette, Romain, Pierrick et Paul, de vous proposer un podcast. On y a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup de réunions, on a débattu et on s'est dit que ce que nous souhaitions, c'est tout simplement vous transporter dans les coulisses de la campagne, ces images, ces petites phrases, ces informations que seuls les reporters de terrain peuvent capter et qui en disent souvent très long, bien plus long qu'un meeting devant des militants déjà convaincus. En bref, tout ce que les candidats ne vous disent pas et ne vous montrent pas. Bienvenue dans Coulisses, le podcast RMC de la présidentielle, épisode 5, c'est parti. Salut Hélène, salut Paul.
Salut Jérémy. Salut à tous.
Cette semaine, nous avons décidé de nous intéresser à ce duel qui commence à s'installer et dont on va sans doute parler à Noël en famille entre le foie gras, la dinde et le quinoa. Le duel Macron-Pécresse. L'un est président, pas encore candidat. L'autre a été investi par son parti il y a une quinzaine de jours. Leurs équipes respectives installent ce duel dans l'esprit des Français. Une bataille politique et parfois personnelle. Deux candidats positionnés presque sur la même ligne politique. Alors évidemment, ça commence à faire quelques étincelles.
Mes amis, il y a quelques semaines, on nous disait enterrés, divisés, perdus. Mais nous sommes de retour en ordre de bataille pour la victoire. Et les Français l'ont compris, ce sera Emmanuel Macron ou nous.
On annonçait depuis des mois un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le remake de 2017. Mais aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Après l'émergence du polémiste Zemmour il y a quelques semaines, c'est bien la victoire de Valérie Pécresse au Congrès des Républicains qui change la donne et qui a même surpris jusqu'à l'Élysée, Paul.
Oui, il est possible que l'Élysée, ou en tout cas la Macronie, misait sur une victoire de Xavier Bertrand lors du Congrès des Républicains. Donc forcément, la victoire de Valérie Pécresse, elle a un petit peu pris de court tout le monde. Et Valérie Pécresse, depuis quasiment 15 jours, sa victoire au Congrès des Républicains, elle est la cible des attaques de tous les membres de la majorité. On va écouter dans l'ordre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, et Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
Moi, je respecte évidemment Valérie Pécresse. Après, c'est peut-être une bonne candidate pour Versailles. Je ne crois pas que ce soit une bonne candidate pour parler aux électeurs de Tourcoing.
Elle a la fébrilité comme moteur et l'hypocrisie comme carburant.
Elle ne peut pas être un jour Zemmour-Ciotti, le lendemain Macron-Delors. Ça ne marche pas comme ça.
Elle affirme qu'elle a une très grande constance dans ses propos.
Bon, la seule constance, c'est la vitesse du vent qui tourne.
Les critiques sont particulièrement cruelles. Et pour
c'est
tout vous dire...
C'est devenu la cible là dans les médias en ce moment.
C'est la cible de la Macronie, clairement. Et pour tout vous dire, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur les angles d'attaque contre Valérie Pécresse. Un ministre que j'ai rencontré il y a quelques jours me disait qu'en fait, c'était très bien de s'attaquer à Valérie Pécresse, mais peut-être pas non plus à son côté versaillais, parce que c'est exactement le même électorat qu'Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'il y a nécessité de répliquer, de répondre, mais parfois le positionnement n'est pas toujours le bon. Ils sont encore en train de tâtonner. Et en tout cas, on voit bien, Hélène, que Valérie Pécresse est devenue comme une forme d'obsession. Enfin, du moins, c'est ce que disent les proches de Valérie Pécresse.
Quand Valérie Pécresse où son équipe entend les commentaires des membres de l'exécutif qu'on vient d'entendre. En fait, leur réponse, c'est de dire ils ont peur, ils sont fébriles. Il y en a un membre de son équipe me disait encore l'autre jour, ils ont les pétoches. C'est la première fois qu'ils se disent que Emmanuel Macron peut perdre. Alors, résultat, en fait, ils sont très contents dans l'entourage de Valérie Pécresse parce que plus on parle d'elle, eh bien, plus on en profite. Et puis, en fait, c'est l'occasion pour elle de dire « En fait, Emmanuel Macron, il n'a qu'une obsession, c'est moi maintenant. » Je vous propose de l'écouter. Elle me l'a redit lundi en déplacement à Boulogne-sur-Mer quand elle était face aux pêcheurs.
Je vais vous dire, il est obsédé aujourd'hui par ma candidature. Donc, je vais vous dire, le simple fait que je sois venue ce soir, vous allez voir que ça va débloquer les choses.
Voilà. tant qu'on parle de moi, c'est une bonne chose. C'est un peu ce qu'elle dit. Elle a aussi une stratégie, Valérie Pécresse, en faisant ça, c'est se débarrasser de son image, de son étiquette dite Macron compatible. Il faut se rappeler qu'elle a quitté le parti en 2019 parce qu'à ce moment-là, elle trouvait que le parti LR allait un peu trop à droite, d'où à ce moment-là des accusations de Macron compatibilité. Et puis, il y avait eu déjà à ce moment-là des rumeurs de ça pourrait être elle finalement la première ministre d'Emmanuel Macron. Donc, sa stratégie et la stratégie de son entourage, c'est il faut se débarrasser de ça. Elle gomme cette image et justement, maintenant, ils prennent tous le contre-pied et ils jouent à fond la carte de l'anti-Macron.
Oui, et l'événement politique de ces dernières heures, c'était aussi l'émission d'Emmanuel Macron en majesté sur TF1, diffusée ce mercredi soir. Et cette émission a aussi été l'objet d'échanges houleux. Valérie Pécresse a même été la première à saisir le CSA, le gendarme de l'audiovisuel, Hélène.
Mais oui, parce qu'il faut savoir que ce soir-là, ce mercredi soir-là, initialement, eh bien Valérie Pécresse, elle devait être sur BFM pour une émission de 2 heures à peu près, donc une très belle exposition, un sacré entretien qui était accordé pour la candidate LR. On comprend pourquoi elle s'énerve et pourquoi son équipe s'énerve. Dans son équipe, on crie au scandale démocratique, on dit que c'est le retour de l'ORTF. C'est pour cette raison, entre autres, que Valérie Pécresse décide de saisir le CSA. On l'écoute.
J'ai saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande et qui, pendant des heures, fait sa campagne, alors même que ses adversaires, eux, doivent se contenter de 5 minutes de duplex pour lui répondre. Donc je demande au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rétablir l'égalité des temps de parole et, j'allais dire, le fair play démocratique dans cette élection.
Bon, si Valérie Pécresse n'était pas ni sur TF1 ni sur BFM TV ce mercredi soir, elle était quand même présente dans les échanges entre les journalistes et le chef de l'État, Paul. Il a été question de certaines de ses propositions.
Oui, alors il n'a pas été question que de Valérie Pécresse, évidemment. Il y a eu près de 2 heures d'interview. Il y a eu aussi le fameux quart d'heure sur Éric Zemmour. Alors Emmanuel Macron, c'est assez marrant parce qu'il parle de ses adversaires sans jamais les nommer, aussi bien Éric Zemmour que Valérie Pécresse. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les questions les plus concrètes, notamment sur le programme économique, elles se sont tournées vers des propositions qu'avait déjà émis Valérie Pécresse. Et je pense là, évidemment, à une proposition qui a fait beaucoup de bruit, la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. C'est une proposition de Valérie Pécresse. Et écoutez, Emmanuel Macron la prend au mot.
On parle de femmes et d'hommes. Expliquer que le destin de l'État, c'est de les sabrer comme si c'était des petits bâtonnets, je trouve ça toujours étrange. Où sont les fonctionnaires? Les fonctionnaires, c'est l'armée. L'éducation nationale? Mais est-ce qu'on peut dire je peux supprimer la moitié des postes d'enseignants? Voyons. Où sont les fonctionnaires? Les policiers? À la belle affaire. Où sont les fonctionnaires? Les magistrats? Quelle division? Quel bataillon? Lesquels? Où? Faut du sérieux.
Bah, ça a dû lui faire plaisir à Valérie Pécresse parce que...
Il lui répond hyper vertement.
Il lui répond ouvertement. Ouais. Elle qui veut avoir une hache aussi pour supprimer le nombre de fonctionnaires, c'est son expression. Ça a dû lui faire plaisir parce qu'on sait en tout cas qu'elle a bien regardé cette émission. Elle n'a pas pu faire son émission à elle, mais en tout cas, elle s'est bien mise dans son canapé pour pouvoir regarder le président, commenter l'émission aussi. De par son entourage, on sait que globalement, son sentiment, c'est que ok, il a fait son mea culpa, il a reconnu ses erreurs, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un président au pouvoir.
Au final, cette émission de presque 2 heures a surtout en fait été l'occasion pour le chef de l'État d'affirmer qu'il avait changé, qu'il avait commis des erreurs, qu'il avait appris et qu'il aimer la France et les Français. Bon, rien de très sensationnel, mais une véritable opération de communication, estiment les supporters de l'actuel président de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
C'est une émission de propagande de la part d'un candidat. L'Élysée a quelque part été saisie de panique par rapport à la candidature de Valérie Pécresse.
Je sais bien qu'on se fixe un objectif commun, d'essayer de ne pas mentir dans chacune de nos déclarations. Éric Ciotti vient de nous expliquer qu'Emmanuel Macron avait choisi cette émission en fonction de Valérie Pécresse. C'est un mensonge.
Et la bataille ne fait sans doute que commencer. La faute aux sondages qui, pour la première fois en presque 5 ans, ont donné Emmanuel Macron perdant, 52% contre 48% pour Valérie Pécresse, la preuve peut-être que les Français sont prêts à élire une femme.
Alors, juste pour vous dire, quand ce sondage est tombé, clairement, dans l'entourage de Valérie Pécresse, on nous a dit « on saute au plafond ». Ça leur a clairement donné un peu un élan pour continuer cette campagne. À voir si cet élan va continuer.
Moi, j'en parlais récemment avec un conseiller d'Emmanuel Macron qui trouvait, et je le cite, que Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, ils sont un peu ton sur ton. Autrement dit, ils occupent le même segment politique, et on va en reparler tout à l'heure, ce qui peut être pour l'un comme pour l'autre, une forme de faiblesse.
Quelque chose qui peut expliquer qu'elle arrive aussi au second tour, c'est le fait qu'elle soit une femme. Plusieurs commentateurs l'ont dit. Elle en fait un atout, mais ses proches disent quand même que ça ne suffit pas d'être une femme. Elle arrive à ce niveau dans les sondages, dans les sondages parce que c'est la candidate de la modernité, c'est la candidate de la fermeté. Elle ne veut pas non plus que ce soit le seul critère qui fasse qu'on vote pour elle.
En tout cas, pour revenir à ce que tu disais, Paul, je peux vous livrer aussi une confidence de ce même ministre que j'ai rencontré cette semaine. Et qui, en effet, avoue lui aussi que Macron et Pécresse, c'est peut-être deux candidats sur la même ligne et donc un candidat de trop. L'un ou l'autre, pour lui, finira par chuter dans les sondages car ses candidatures sont trop proches idéologiquement. Ce même ministre jugeait qu'un deuxième tour entre Macron et Pécresse serait même dangereux pour la démocratie. Car comment gouverner ensuite un pays à l'issue d'un duel au second tour entre bourgeois et bon bourgeois ? Ce sont ses propos. Un duel dans lequel beaucoup de Français pourraient ne pas se retrouver. Et si on s'intéressait maintenant à ces déplacements de campagne, Hélène et Paul, vous avez chacun suivi Emmanuel Macron et Valérie Pécresse sur le terrain, Calais et Boulogne-sur-Mer, pour toi Hélène sur des thématiques comme les migrants et la pêche, Vierzon, Bourges, Moulins et Vichy, pour toi Paul, un déplacement en prétexte pour le chef de l'État pas encore candidat, sur le thème de la redynamisation des villes moyennes, rien que ça, un
ça
séjour de 48 heures en province, seulement c'était un petit peu terne.
Oui, un peu terne. Voilà, on entend même les chiens aboyer. C'est vous dire qu'Emmanuel Macron n'a pas franchement soulevé ni électrisé les foules. Alors, c'est une différence majeure qui m'a frappé avec d'autres déplacements que j'ai pu suivre dernièrement, notamment des déplacements à Marseille. Là, j'ai eu le sentiment, à Vierzon, à Bourges, et puis après dans le département de l'Allier, que finalement, les gens avaient pas franchement grand-chose à lui dire, il n'y avait pas vraiment d'interpellation, il n'y a pas eu d'échange marquant sur ce déplacement. Et surtout, ce qui était frappant, c'est qu'il a traversé des espèces de villes complètement sous cloche, complètement sous sécurité, complètement barricadé. Je me souviens à Vierzon, dès le premier jour de ce déplacement de deux jours, il remonte une avenue commerçante en plein centre-ville, et là, il n'y a pas un client dans les magasins, il n'y a pas un passant sur les trottoirs, et il n'y a personne pour aller au contact, alors que, comme tu le disais, ce déplacement, c'était plutôt un déplacement prétexte pour aller serrer des mains, pour aller au contact des gens.
Mais qu'est-ce qui explique ça selon toi ? Est-ce que c'est le fait que le déplacement a été mal calibré ? Est-ce que le chef de l'État, l'effet magnétique autour d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il est un petit peu retombé ? Je crois que lui-même a perçu qu'il y avait quand même malaise avec la population ce jour-là.
D'abord, il y a une espèce d'explication géographique. On est dans la diagonale du vide, on est dans des villes où il y a quand même peu d'habitants, où il y a peu de résidents. Enfin, c'était des petits villages, c'était des petites villes, des villes moyennes, et c'était assumé comme ça. Et ensuite, il y a la question qui est une excellente question de l'effet magnétique du président de la République. Je me questionne aujourd'hui sur la pertinence ou en tout cas la prégnance de son lien avec les Français et peut-être que c'est dû au fait de la crise. Est-ce qu'avec la crise, il n'est pas apparu comme l'espèce de figure du père de la nation qui joue souvent ? Il a annoncé les décisions.
Voir le père Fouettard, celui qui enferme les Français, celui qui restreint les libertés.
Il a annoncé le confinement, il a parlé du quoi qu'il en coûte et tout. Est-ce que ça ne l'a pas éloigné des Français ? Finalement, j'en sais rien. Je serais presque tenté de dire oui après ce déplacement. C'est peut-être trop tôt pour juger. Attention, je suis prudent.
En tout cas, dans son interview, il a dit qu'il avait appris à aimer les Français pendant son quinquennat. Donc.
Et à la fois, je crois qu'il y a une forme de déclic sur le déplacement Vierzon, Bourges et Allier sur le moral des Français. Il a fait un off et ça faisait d'ailleurs longtemps qu'il n'avait pas vu des journalistes hors caméra, hors micro, à micro éteint. Et il dit cette phrase qui comme une prise de conscience, le Covid, la crise sanitaire a tapé sur le moral des Français.
Peut-être en effet ce qui explique cette forme de déclaration d'amour répétée à l'occasion de cette émission sur TF1. En tout cas, le déplacement d'Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat, mais quasiment, avait été assez différent de celui de Valérie Pécresse.
Ah
Hélène.
Oui, chez Valérie Pécresse, c'est encore beaucoup plus artisanal. On commence en réalité les vrais déplacements de campagne. Lorsque je l'ai suivi lundi à Calais, Boulogne-sur-Mer, en fait, finalement, entre chaque séquence, on pouvait c'était très millimétré. Mais on pouvait quand même discuter avec Valérie Pécresse, avec Xavier Bertrand qui était là aussi en off. On pouvait avoir accès à leurs équipes, à leurs collaborateurs, à leurs attachés de presse. Très vite, je me suis dit, si demain elle est présidente, je pense que ce ne sera pas pareil. Et c'est normal, le dispositif de sécurité est forcément beaucoup plus important. imposant et important lorsqu'on devient président. En tout cas, c'est encore artisanal. La preuve aussi, lorsqu'elle a commencé son petit meeting, le lundi soir, c'était à Écuire, on n'est pas loin du Touquet de Montreuil-sur-Mer. Elle monte au pupitre et puis là, voilà, elle fait comprendre aux militants que bon, c'est un des premiers meetings et que c'est encore un peu poussif, c'est un peu le début. Je vous propose d'écouter ce passage.
Vous essuyez un peu les plâtres de la campagne parce que pas de musique, pas encore d'ambiance, pas encore d'affiches, pas encore de takemono. Enfin voilà, on a fini la primaire un peu à l'arrache, mais vous êtes là et c'est le plus important.
Bon, on voit que c'était un peu difficile pour Emmanuel Macron, ça l'est aussi pour Valérie Pécresse.
Pour des raisons différentes à chaque fois.
Mais Valérie Pécresse a un enjeu aujourd'hui, elle est candidate, il faut qu'elle se présidentialise. Et cela passe, Hélène, par des déplacements, mais aussi des déplacements à l'international.
Effectivement, son premier grand déplacement à l'étranger, eh bien, c'est en Arménie. Elle y sera du lundi 20 au mercredi 22, l'Arménie. Encore une fois, juste après Éric Zemmour, hein, quand même, qui en revient tout juste. On lui a posé la question à Valérie Pécresse, on lui a demandé, est-ce que on imagine que vous n'allez pas faire un copier-coller du déplacement d'Éric Zemmour ? Évidemment que non. Très vite, elle a avancé ses arguments en disant qu'elle était déjà allée en Arménie, qu'elle a des liens très forts avec la diaspora arménienne. Bref, en tout cas, ce déplacement à l'étranger, c'est une façon, comme tu lis, Jérémy, d'endosser un costume de véritables prétendantes à l'Élysée.
Et puis ce match entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, que nous avons essayé de décrypter ici, il va encore durer sans doute de longues semaines. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron n'est pas encore candidat. Il a précisé qu'il ne le serait qu'à l'issue de la cinquième vague. Mais le problème, c'est qu'il y aura peut-être une sixième vague. On parle beaucoup de ce variant Omicron. Donc il va falloir peut-être attendre pour le voir définitivement descendre dans l'arène et cette fois débattre peut-être plus directement et publiquement avec ses adversaires, et notamment donc avec Valérie Pécresse. Et nous avons pris l'habitude dans ce podcast coulisses d'appeler ces acteurs de la campagne, ces Français de l'ombre qui voient les candidats surgir dans leur quotidien. Nous avons choisi cette semaine de contacter Bruno Margollet. Il est patron pêcheur à bord du chalutier Nicolas Jérémy à Boulogne-sur-Mer. Il a accueilli Valérie Pécresse très récemment, comme vous l'expliquez, Hélène, encore tout à l'heure. Au menu des discussions, les licences de pêche que refuse d'accorder le Royaume-Uni aux pêcheurs français depuis le Brexit, on l'appelle. Bonjour Bruno Margollet, vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Donc, je crois savoir que des présidents et des candidats à la présidentielle, vous en avez déjà accueilli. Et cette semaine, c'était Valérie Pécresse. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les coulisses de ce rendez-vous ?
Bah écoutez, on a eu un appel la veille en nous disant que Valérie Pécresse venait à Boulogne, hein, de la Calais, Boulogne, rencontrer les pêcheurs. Bon, la problématique, c'est le lundi, bien entendu, et c'est logique, on est dans un port de pêche, les bateaux sont en mer, donc ça a été compliqué pour réunir des patrons pêcheurs et des bateaux dans le port. Hein. Mais le principal, c'est que les acteurs qui représentent la pêche étaient présents pour leur expliquer rapidement tous nos problèmes. Et aujourd'hui, nos questions, c'est est-ce que la pêche aura une place, si vraiment demain, elle est présidente, si la pêche, elle aura un ministère en bonne et due forme pour pouvoir au moins défendre nos pêcheurs. C'est ce qu'on lui a exprimé clairement de vive voix.
Et vous, je crois que vos deux principales revendications, c'est l'instauration d'un ministère de la pêche, mais aussi et surtout récupérer les licences de pêche que vous avez perdues à cause du Brexit.
Mais bien sûr, est-ce que demain, si vraiment elle est présidente, elle lâche l'affaire, hein, sachant que aujourd'hui on nous dit que 93% des licences sont attribuées, sauf que dans les Hauts-de-France, c'est pas le cas. Dans les Hauts-de-France, on est à peu près à 40%, allez, j'arrondis à 40% des licences.
Donc vous lui avez mis gentiment la pression en cas d'élection, il va falloir qu'elle vous aide, hein, c'était bien ça le message. Est-ce qu'elle a compris vos revendications ?
Oui, je pense que j'espère qu'elle a compris. De toute façon, je lui ai dit de si vous êtes présidente, on n'hésitera pas à vous le rappeler. Ça, c'est clair.
Il y a Hélène qui vous a rencontré cette semaine, qui a une question à vous poser.
Bonjour oui. Bruno. Elle a dit qu'elle ferait mieux qu'Emmanuel Macron. Vous êtes déçu par ce que fait Emmanuel Macron au niveau du Brexit. Vous vous attendez plus d'elle. Elle le fera, elle, vous pensez ?
Vous savez, après, quand on a la fonction, c'est pas si simple que ça. Mais derrière, il y a des hommes, il y a des femmes Aujourd'hui, le gouvernement actuel, on pose des questions, on n'a pas toujours les réponses sur la méthodologie qui a été appliquée avec la direction des pêches pour attribuer des licences.
Vous espérez voir d'autres candidats à la présidentielle et peut-être en reparler du sujet d'ici au mois d'avril avec Macron directement ?
Ah bah bien sûr, je suis persuadé qu'on va avoir les candidats suivants. De toute façon, à chaque élection présidentielle, on les a eu. Bon, c'est sûr qu'on a été dans le feu de l'actualité avec les licences. Bon, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de passer chez nous, parce que on est la flottille la plus impactée par les licences britanniques, parce que nous, on sort du port de Boulogne, on fait 8000 nautiques, on est chez eux. Hein. Et c'est là la grosse problématique.
Bon, ben merci beaucoup en tout cas Bruno Margolet. On suivra bien sûr avec attention les suites de ces négociations avec le Royaume-Uni. Il manque encore de nombreuses licences pour les pêcheurs français et notamment à Boulogne-sur-Mer, on l'a bien compris. À très bientôt et très bonne campagne à vous.
Merci, bonne journée.
Voilà, coulisses épisode 5, c'est terminé. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans les coulisses de ce duel naissant entre la candidate de droite Valérie Pécresse et le président sortant, pas encore candidat, Emmanuel Macron. Merci Hélène, merci Paul.
Merci à toi Jérémy, passez de bonnes fêtes.
Très bonnes fêtes à vous tous bien sûr et à vos proches. On se retrouve à la rentrée. La course à la présidentielle sera alors lancée à pleine vitesse. D'ici là, coulisses est à écouter et réécouter sur RMC et sur toutes les plateformes. N'oubliez pas non plus le journal du off du service politique de RMC tous les matins à 5h45 sur notre antenne et sur les réseaux sociaux.
Coulisses, le podcast de la présidentielle à écouter sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC.